Chapitre 6. Sébastien et Mathilde rentrèrent plus sages que jamais à leur domicile de la rue Lepic. Dès leur levée, ils se rendirent chez les Baudois se concerter sur leur commune entreprise. Les Baudois s'étaient magnifiquement installés rue Saint-Augustin, à 200 mètres du boulevard, champ de bataille des hommes d'affaires, intelligents et célèbres. C'était, au deuxième, un vestibule très ample, toutes les pièces donnant dessus, salle à manger, salon, chambre des maîtres, chambre d'amis, et des meubles neufs, des tapis partout, des tableaux, des tentures. Ils firent avec effusion les honneurs de leur logis. « Voilà, dit Léon, le cadre mondain qu'il vous faudra également. » Dans le salon, il manœuvra pour s'asseoir auprès de Mathilde sur le canapé. Berthe, plus habile, lui déroba cette place. Il se planta sur une chaise, sans mot dire, étira les longs poils odorants de sa barbe, caressa son crâne dénudé. Sa femme et Sébastien causaient. Celle-ci, brusquement, interpella son époux, qui, dérangé dans ses pensées de luxure, se troubla. « Demain soir ?»« Quoi, mamie ? Tu voyages dans la lune ?»« Non, explique-toi. » Est-ce demain soir que nous pendons la crémaillère ? Parfaitement. Vous êtes libres, Sébastien et Mathilde. On peut compter sur vous ? Certes, oui, acquiesça Mathilde. Sébastien, pour l'unique satisfaction de prouver que beaucoup de soucis en homme d'importance le harcelaient, prétexta une course urgente. On se sépara en grande cérémonie, avec des caquetages, comme dans le grand monde. Les deux fiancés ne manquèrent pas, à l'heure fixée, le dîner de la crémaillère rue Saint-Augustin. On avait dressé la table somptueusement, rouge et blanche, embaumée de violettes. Une soubrette, en tablier à broderie, servait, ainsi qu'un valet en habit rouge. Berthe n'avait pas craint, en toilette de soirée, d'exhiber nue ses épaules sèches, sa gorge osseuse. Mathilde, au contraire, en sa pudeur de vierge, avait mis une robe boutonnée de partout, un col dont la blancheur seyait à la clarté rose de son teint. Léon ne tarda guère à lui chercher les mollets sous la table. D'abord, elle se déroba. Puis, ma foi, pour s'éviter de l'inquiétude, elle ne se défendit plus. Comment Léon, dans le désarroi de ses sens, n'eût-il pas négligé la surveillance de Berthe, toujours soupçonneuse ? Celle-ci, tout à coup, cessa d'écouter les bavardages de Sébastien. Et fixe, les poings sur la table, elle saisit entre Léon et Mathilde un rire d'effronterie. « Sabre de bois ! » s'écria-t-elle. Les convives, ensemble, sursautèrent de stupeur sur leur siège. Les domestiques, épouvantés, ne bougèrent plus aux deux bouts de la table. « Qu'as-tu, Berthe ? » demanda Léon. « Tu me comprends, sois convenable. » Nous causions avec Mathilde de notre commerce naturellement. « Ce n'est pas vrai. » « Votre mari ne ment pas, Berthe. Pourquoi inventerait-il ? » « Vous le savez mieux que moi, vous. En tout cas, pour ce magasin, ne comptez plus sur mon argent. » « Ton argent, mamie, où l'emporteras-tu ? » « Je le garderai. » « Je suis le maître de tout, moi. » « Mais pourquoi te fâches-tu, Léon ? » « Je suis ton mari et je te forcerai à m'obéir. » Sébastien, à son tour, supplia Berthe de croire au succès de leur entreprise, à l'harmonie de leurs deux ménages. Elle ne se rendait pas, quoique par compassion, elle subit patiemment les prières de ce Sébastien, si crédule, qui pâtirait plus tard des crimes conjugaux de Léon et de Mathilde. Devant l'hypocrisie de ses deux complices, l'indignation la secoua d'un flot, et après quelques minutes de calme, elle éclata une seconde fois. « Taisez-vous, Mathilde !»« Moi, je ne dis rien. » »« Ce n'est pas l'envie qui vous manque. Vous comprenez mes appréhensions d'épouse légitime ?» Léon, à ces mots, s'élança sur sa femme, et la maîtrisant d'une main sur l'épaule, il lui ferma la bouche de l'autre. Sébastien implora grâce, ainsi que Mathilde, qui, au milieu de la bataille, restait froide, un corps d'acier. Léon, desserrant un peu sa main lourde, gronda « Si elle continue, je penserai qu'elle est folle. Je la ferai interner dans un asile. » « Folle ?» tressaillit Berthe qu'il délivrait enfin. « Non, je ne suis pas folle. »« Si, et je n'hésiterai pas à t'enfermer. » « Tu en serais bien capable. Il vaut mieux que je me taise. » Elle rangeait son couteau fébrilement, ses verres, ses fourchettes, sans lever les yeux. Les domestiques, dans l'émoi d'un tel orage, confondaient leurs services. Mathilde, jouant la candeur à merveille, dégustait avec des soupirs de gourmandise la bombe à la vanille, souriait à Sébastien, frétillait de sa langue rouge au contact de la glace. On oublia vite l'orage. Berthe, par pusillanimité ou pour préparer une vengeance, avait pris le parti de se résigner. Sous les flatteries de Mathilde, elle confessa spontanément avoir tout à l'heure commis une injure et une maladresse. On recommença de boire. Puis, au café, pour se payer du bon temps, on médit des bourgeois de Nézignan-l'Évêque qui, dans l'oisiveté, au fond de leurs maisons anciennes, laissaient leur intelligence se rouiller. La conversation se prolongea si abondante qu'on fut surpris par l'heure, le tic-tac précipité de minuit à la pendule du salon. Vite, les deux invités enfilèrent leurs manteaux. Après des salutations chaleureuses, dans l'ombre du palier, ils descendirent. Dehors, le froid de la nuit les déconcerta. Un vent aigre piquait le visage de Mathilde, qui songea aux privations de naguère. Riant un peu, elle pressa le pas. Sur les boulevards, on sortait des théâtres. Au milieu des tourbillons de la foule, ils décidèrent péniblement un vieux cocher à grimper jusqu'à Montmartre. Serrés l'un contre l'autre sur les coussins du fiacre, ils s'avisèrent pour la première fois de s'enlacer avec un désir d'amour permis. Le lendemain, dans la matinée, Sébastien s'étonna des mélancolies de Mathilde chez elle. C'est qu'il devait descendre au cœur de Paris chercher un appartement. Elle regrettait sa chambre d'ouvrière où il lui avait été si doux de rêver de bonheur. Ils partirent en silence. Rue Chauchat, ils arrêtèrent un appartement de riche, au premier, de quoi se loger, avec Madame Lampéric et l'oncle Alcide. L'après-midi, pendant que Sébastien s'en allait chez un décorateur choisir quelques tapisseries, Mathilde voulut remonter chez elle se recueillir un peu. En haut de la rue des Martyrs, elle eut envie d'errer en promenade à travers le quartier. Une langueur l'envahissait, une aversion du monde des bourgeois où les dissimulations et les vanités gêneraient sa franchise. Le soleil, avec des étincellements d'épée, brillait dans le froid sur la chaussée sonore. Des rôdeurs, narquois et faméliques, se traînaient de cabaret en cabaret. Des ouvriers sans travail, hâves, la poitrine creuse, se pressaient sur les bancs les uns contre les autres afin de se réchauffer. Mathilde erra très loin, jusqu'à la Villette. Le spectacle grouillant des faubourgs attirait sa chair brave de plébéienne, son cœur charitable d'enfant. Elle songeait davantage à Pierre, qui, pour ne pas l'entraver dans sa fortune, n'osait plus se révéler. Ou bien, peut-être, était-il retourné chez eux, dans leur noir pays des mines, raconter que Mathilde s'était perdue, avec tant d'autres, dans le ruisseau de Paris. Elle avait annoncé à ses parents son mariage. Mais Pierre, plus persuasif par la voix et par le geste, ne l'aurait-il pas démenti dans leur famille, devant les camarades ? Cette pensée de paraître avilie aux yeux de ses semblables la fit rougir de honte. Elle revint sur ses pas, tandis que le ciel se teignait des pâleurs livides du crépuscule. Sur la butte, elle chercha Pierre, par les rues qui descendent, ainsi que des torrents. Sachant qu'il s'était logé dans son voisinage, elle ne fut pas surprise, rue Germain-Pilon, tout en haut, de l'apercevoir à une fenêtre sous le toit. Accoudé sur la barre d'appui, il observait avec tristesse le mouvement de la rue, car lui aussi comptait sur le hasard, Dieu des pauvres, pour rencontrer sur son chemin l'ami qu'il redoutait d'importuner chez elle. Mathilde levait déjà son parapluie d'un geste d'appel. Il la reconnut aussitôt et lui tendit les bras. Sans hésiter, elle monta, glorieuse de son charme et de son dévouement. Elle l'éblouit plus fort qu'elle n'avait espéré. Il la touchait à peine, tournait ingénument autour de son corps trop soigné qui fleurait bon les fleurs d'un jardin défendu. « Mon Dieu, disait-il, qui t'a donné ce manteau de fourrure, cette broche d'or, ce chapeau à plumes ?» Mathilde, sans répondre, s'asseyait sur l'unique chaise de bois blanc. Elle regardait avec étonnement, avec tendresse, cette chambre froide, blanchie à la chaux, garnie d'un lit de fer, d'une table étroite, d'un rideau de laine rouge à la fenêtre. Elle regardait son compagnon d'autrefois, toujours simple, qui n'avait rien perdu de sa beauté rugueuse de peuple, en ses vêtements de travail, maculés de plâtre, comme ses mains épaisses, comme ses joues bien nourries. « Est-ce que tu as fait fortune ? » demanda-t-il en s'asseyant un peu plus loin sur son lit. « Non, et oui, répondit-elle, tu dois savoir mon mariage, il est décidé. »« Hein ? Et moi ? Ce n'est pas avec toi que je me marie. »« Mais je t'aime ! Est-ce pour mon bonheur ou pour le tien ? Je t'aime et voilà tout. Hélas, tu es un forçat du travail. Attachés à la même chaîne, nous nous serions détestés bientôt, c'est la règle. Je ne comprends pas ces raisonnements. Tu es de mon pays, je t'aime depuis que mon sang désire les femmes. Tu n'es qu'à moi. Pardon, je n'ai pas escaladé ton quatrième étage pour subir tes reproches. » Pierre frappait des pieds le carreau, tendait les mains vers Mathilde, que la peur gagnait sournoisement. Il osa tout à coup, hurlant des injures contre les riches du monde, attenter à la splendeur de son corps, lui saisir les poignets. « Tu es à moi !»« Non ! Tu ne dois être qu'à moi !»« Non ! Gueuse !» Il lui tordait les poignets furieusement. Elle se débattit d'une robustesse égale. D'un coup sec, aussi prompt que pour arracher une corde, elle se délivra et, haletant encore, tandis qu'il se rapprochait, elle le repoussa contre le mur. Trop fière pour s'esquiver, elle le défia fixement, assise de nouveau. Il se reposait sur son lit, plus loin que tout à l'heure, en gémissant. « Si tu me reçois de cette façon, dit-elle, je ne reviendrai plus. Ne plus te revoir, je mourrai plus tôt. Alors sois raisonnable. Pourquoi te maries-tu ? Pour mon bonheur et pour le tien, si tu es raisonnable. On me donne la richesse, je donne mon corps en échange. Le corps, ce n'est rien. Le tien, pour moi, c'est tout. Pour toi, oui, sans doute, mais mon cœur, je te le garde entièrement. Serais-je montée chez toi si... C'est vrai, tu as été bonne, ne m'abandonne pas. » Câlin, frémissant de peine et de prière, il s'avança les mains aux poches de son veston bleu. À l'odeur de ses habits, de son haleine pure, elle redevint, en moment d'innocence, la jeune fille de leur pays de misère qui, avant d'épanouir ses 20 ans, rêvait pour lui et pour elle les petites joies pareilles à des bouquets de printemps que l'on cueille dans les sentiers le dimanche et qui, si vite, se fanent. Il se prosterna timidement, à genoux, sans savoir exprimer quel sacrifice, pour son plaisir, il lui consacrerait. Elle toucha ses cheveux rudes, son front lisse, avec la même douceur qu'autrefois, en disant « Tu as été mon premier amour, le meilleur. Plus maintenant. Je saurai te retrouver. Oh, Mathilde, ma créature !» Il lui pressa les mains avec frénésie pour la retenir encore, tandis qu'elle se levait. « Je ne te verrai plus. Il me semble que tu es venue me faire tes adieux. »« Pas mes adieux, mais... Souviens-toi que je n'ai jamais su mentir. Je veux t'embrasser. Veux-tu ?» Elle le prit entre ses bras, au risque de se souiller de plâtre, et telle qu'une sœur, avec une sorte d'onction, le baisa sur une joue, puis sur l'autre. Il se penchait un peu pour l'étreindre sous la taille. Mais, coquette, prudente, elle se retira. « Ne me décoiffe pas. Au revoir. Tes parures m'intimident. Autrement, on saura les quitter pour que tu n'aies point de crainte dans mes jours de liberté et de fantaisie. Tu me plaisais mieux chez nous, avec tes mains et ton visage noir de charbon, ta jupe fine sur tes grosses hanches. Ne pleure pas, Nigo. Adieu. Au revoir. » Une dernière fois, il voulut l'embrasser, mais, épuisé par la douleur, il n'eut point de force. Elle partit d'un vol en un froufrou délicieux de son manteau et de sa robe. Et là, sur le seuil de la chambre, il se frotta les yeux pleins d'ombre, comme à l'issue d'un songe où un ange du ciel l'eût laissé plus pauvre sur la terre.